They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木家
正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international quotidien que vous retrouvez sur France Culture tous les jours. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clémence Alezard, Tiffaine de Roquigny, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. On poursuit notre série consacrée au transport maritime, la Grande Traversée. Nous parlions lundi du navire cargo, le fleuron de la mondialisation. Hier, des enjeux géopolitiques du transport maritime, Panama, Suez, l'Arctique, la bataille des passages. Aujourd'hui, vie et mort d'un porte-conteneur.
C'est cette eau-là que je vais bénir, et avec laquelle d'ailleurs ? Je vais bénir le Claudin des Gagnés.
J'aime bien le métal. C'est un peu comme de la lave en fusion, là. Mais moi, j'aime bien ce milieu un peu brutal, un peu... Mais pas que brut, justement. Il n'y a pas que des grosses brutes, quoi, au chantier. Malgré le métier un peu dur.
Ça ressemble à ça.
Bien. Ouais. Bon, oui, ça peut être ça. Ça, c'est les blocs, les différents blocs.
Les pieds sont fabriqués en Chine. Toutes les parties, tout ce qui est roulage a été fabriqué en Allemagne. Mais c'est passé par la Chine, je ne sais pas pourquoi. Et la poutre a été faite chez nous.
Ça, c'est ça, ces rails-là se poursuivent ici. Okay. Puis on a un système de transfert. On peut embarquer le navire dessus. Le tourner et s'en aller sur notre cale sèche pour la
mise à l'eau.
Que le Marco Polo tranche les vagues, parfois tempêtes, dans la mer du Nord et dans les océans.
C'est la route qui nous mène. Oui, le Marco Polo, porte-conteneur de la compagnie française CMA-CGM, sorti du chantier naval fin 2012. À l'époque, il s'agissait du plus gros porte-conteneur au monde, 16 000 conteneurs, 396 mètres de long, mais depuis, il a été détrôné par le Globe de la compagnie chinoise CSCL, tout juste rentré en activité ce mois-ci avec ses 400 mètres de long, ses 19 100 boîtes embarquées, mais rassurez-vous, le record sera très bientôt battu, hein, puisque la semaine dernière, une compagnie italienne annonçait triomphalement vouloir battre le record avec l'Oscar, une capacité de 19 224 unités. Alors il y a les porte-conteneurs bien sûr, mais aussi les tankers, les pétroliers, les porte-véhicules, les vraquiers. Et tous les chantiers navals ne sont pas en capacité de fabriquer tous les types de navires. On va essayer de comprendre justement cette spécialisation de la construction. On va s'intéresser donc ce matin à la naissance de ces immenses bateaux qui incarnent cette mondialisation dont on parle depuis lundi. Qui sont les principaux acteurs du secteur, qui construisent quoi et comment le marché a évolué ces dernières années. Et puis on regardera ce qui se passe lorsque ces navires arrivent en fin de vie, quelles sont les filières de démantèlement, comment s'organise l'économie de la démolition, qui en sont les bénéficiaires, qui en fait les frais aussi. Ça sera une question qu'on posera à Shahin Mohamed Ali, qui est coordinateur pour l'ONG Shipbreaking Platform au Bangladesh. Et puis on donnera également la parole à un courtier maritime, Jean-Bernard Raoust, le trait d'union indispensable, vous allez le voir, entre celui qui fabrique le navire et celui qui va gérer ses capacités de transport. Pour nous accompagner ce matin, vie et mort d'un porte-conteneur, c'est Paul Touret qu'on a invité ce matin. Bonjour Paul Touret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime à Saint-Nazaire. Et puis j'indique que l'ICEMAR publie chaque année avec l'hebdomadaire Le Marin un ouvrage sur l'économie maritime, Enjeux maritimes 2015, l'Atlas 2015 qui vient de paraître. Où est-ce qu'on peut se le fournir ?
Dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes crèmeries. Allez, on va commencer peut-être, Paul Touret, par un petit état des lieux sur la flotte mondiale aujourd'hui, la croissance du secteur. Que représente aujourd'hui la flotte mondiale et quel est le rythme de croissance, en gros, dans le secteur de la construction navale qui va nous intéresser ce matin ?
Alors, pour être simple, aujourd'hui, chaque année plutôt, ouais, c'est 9 milliards de tonnes de marchandises qui circulent sur les mers. Donc il faut des navires et aujourd'hui environ 80 à 100 000 navires selon le format qu'on veut prendre. En tout cas pour les navires de commerce, à peu près 80 000 navires, ce qui représente une flotte qui a quasiment doublé depuis 1995. Donc avec l'accélération de l'économie globale, on a aussi une accélération de l'industrie maritime. Donc une flotte de plus en plus nombreuse pour desservir de plus en plus de ports et de pays.
Ce qu'on remarque, Paul Touret, et l'un des phénomènes qu'on a mis un peu en avant dans ce petit son que vous avez entendu, c'est que les navires sont toujours de plus en plus grands. Comment expliquer cette course au gigantisme qu'on voit aujourd'hui dans le transport maritime ?
Aujourd'hui, on est sur une économie mondiale XXL et forcément, les navires sont aussi XXL parce qu'on a des besoins de marchandises. On est en période de fête et vous savez bien que pour remplir les centres de distribution cet hiver, il a fallu faire venir beaucoup, beaucoup de marchandises durant l'été et l'automne. Et aujourd'hui, en plus, les compagnies maritimes, ce qui est valable pour l'aérien avec la 380, l'économie d'échelle, pour des coûts à peine supérieurs, vous pouvez transporter deux fois plus de marchandises qu'il y a quelques années.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à tout ça ? Parce que avoir des navires de plus en plus gros, ça pose une question quand même, qui est celle de l'accueil de ces navires dans les infrastructures portuaires. Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller ? Parce qu'à chaque fois qu'on a des navires de plus en plus gros, il faut avoir des ports, il faut faire les modifications pour pouvoir les accueillir. Il y a aussi des conséquences à tout ça. Il ne suffit pas de dire on va prendre un navire de plus en plus gros. Derrière, ça a des vraies conséquences.
L'expert a tendance à dire que c'est la dernière taille qu'on peut atteindre et il est toujours contredit par l'actualité. Ce qu'il y a de sûr aujourd'hui, pour que les gens comprennent, c'est à peu près un bateau moderne géant, c'est 400 mètres de long. Alors on essaye aujourd'hui de maximiser le port de charge de marchandises avec pas mal d'artifices, de technologies pour mettre un maximum de conteneurs sur ces grandes boîtes métalliques. Mais 400 mètres, c'est un petit peu la limite parce qu'il faut que le bateau puisse évoluer dans les chenaux parce que ça coûte très cher de faire des chenaux maritimes, hein, de draguer en permanence. Rotterdam, c'est plus de 70 km de chenal avant d'arriver dans la mer du Nord. À 18-20 mètres de profondeur, ça représente des millions d'euros de dragage par an. Il faut pouvoir tourner dans les ports, il faut pouvoir accéder aux portiques. Aujourd'hui, les portiques dont on a à peu près l'image, c'est 80 mètres de longueur. Donc, on ne peut pas faire des portiques de 100 mètres de longueur. Donc
là, on est à peu près arrivé à la limite. On n'aura pas, théorie, d'ici 2020, des bateaux qui feront 30 000 EVP, c'est-à-dire 30 000 conteneurs de 20 mètres de long.
On peut toujours, mais au bout d'un moment, en principe, on arrive à une limite physique et le traitement de tout ça. Et non pas, parlons pas des coûts, évidemment, de l'investissement que représentent ces navires, de l'assurance et tout ça. On pourrait estimer qu'on a une limite. Maintenant, on peut encore gagner 1000-2000.
Bon, un petit mot avant de passer vraiment aux acteurs de cette construction navale qui vont nous intéresser aujourd'hui. On dit, hein, on voit bien depuis le début de la semaine combien ce transport maritime au fond nous permet de comprendre, de décrypter les enjeux de la mondialisation. Les conséquences de la crise financière et économique de 2008 sur le secteur de la construction navale ?
En fait, il faut partir plutôt de l'hypertrophie du secteur par l'euphorie économique des années 2006, 2007, 2008. Parce qu'avant la crise, il y a quand même une période de très grande effervescence économique et dans le monde maritime. Des promesses de trafic de plus en plus fortes, des banquiers à qui on a montré des schémas d'évolution tout à fait positifs, donc de l'investissement très fort, et un excès d'investissement dans le monde maritime qui est à la hauteur des espérances de l'époque. Que la crise de 2008 met à mal, mais il ne faut pas oublier que la crise depuis 2011, notamment la crise européenne, c'est-à-dire la crise quelque part d'une partie de la solvabilité de la clientèle européenne et un petit peu américaine, fait que le transport maritime s'est retrouvé en hypertrophie, ce qu'on appelle la surcapacité, qu'on peut très bien comprendre. Et en fait, il y a 3 navires en gros pour un marché qui n'en a besoin que 2, donc vous multipliez ça par 100 ou par 1000, vous comprenez un petit peu donc la fameuse surcapacité maritime, qui est une crise totalement inconnue du grand public, même des économistes, qui est une crise relativement forte et qui demande à être aujourd'hui un petit peu apuré.
Donc aujourd'hui, concrètement, on a arrêté de commander des navires ?
Alors, on arrête...
Et évidemment, ceux qui sont en phase de construction, mais alors, sur les commandes.
On est souvent dans un problème, c'est qu'on se fait livrer les navires quand on n'a pas besoin. Donc en général, on arrête les commandes. Et quand on arrête les commandes, en général, tout va un peu mieux. Donc il y a toujours ce phénomène un petit peu de différenciation entre les deux cycles, le cycle de la demande de transport et le cycle de la demande de navires. Et actuellement, comme il y a des premiers signes, il y a un retour vers les chantiers. Des chantiers en difficulté qui, en plus, ont tendance à baisser les prix. Donc, un effet d'aubaine et d'opportunité financière sur lequel se jettent rapidement les armateurs, avec pas forcément un besoin de navire.
Alors, on va regarder donc ce paysage de la construction navale. Le premier qu'il faut regarder, c'est bien sûr le leader, c'est la Corée du Sud. Premier semestre 2014, le groupe sud-coréen Hyundai EV Industry a enregistré une perte de 800 millions d'euros. Je lisais ça dans la presse. C'est une vraie crise. Il y a quelques semaines, on apprenait que, je crois, le tiers des hauts dirigeants de l'entreprise avait été remercié. Une partie seulement a été remplacée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Sud ? Pourquoi est-ce que le leader mondial de la construction navale est en crise, alors même que quand même, le trafic mondial ne cesse d'augmenter chaque année ?
La construction navale, il faut se rappeler, c'est une industrie lourde. Et ça nous raconte une histoire économique qui est plus celle de l'industrie lourde que celle de l'industrie du transport maritime. Si on y rajoute l'émergence économique et tous les phénomènes de développement, on peut très bien le comprendre, et notamment si on pense aux autres produits coréens, que ce soit les voitures ou les produits électroniques. La Corée, c'est un challenger très fort du Japon, plutôt bas de gamme dans les années 80. Puis une montée en puissance, l'avantage de ces grands conglomérats, les chaebol coréens, qui peuvent porter aussi une industrie lourde rapidement. Et la Corée va tailler des croupières, en fait, au Japon dans les années 90, au point d'arriver... En se lançant sur le bas de gamme.
C'est quoi le bas de gamme ? Et puis je vous laisse poursuivre.
Le bas de gamme, ça va être le cargo basique, celui qui n'a que des cales, pas de grue, pratiquement pas de système de complexe.
On appelle
cales,
le vraquier.
Le vraquier, voire le cargo, hein, le bon vieux cargo qu'on a tous vu au fond d'un port à faire hein, du petit trafic.
Braqué parce que c'est celui
parce qu'on y met du vrac.
Le vrac, c'est en gros le céréal, voilà. Le sucre, etc.
Et pas un chimiquier qui demande de l'inox, pas un roulier qui demande des passerelles et adaptables. Donc un bateau relativement simple. Donc on part, et c'est à peu près la même chose que si vous vous souvenez de l'automobile, les premières coréennes il y a 20 ans, une voiture très simple, voire rustique, voire presque obsolète, mais qui arrive par sa performance économique à remplir une offre de marché qui est tout à fait intéressante.
Et puis si on file la métaphore automobile, les voitures sud-coréennes aujourd'hui, elles sont plutôt haut de gamme, voilà. Pour certaines.
C'est exactement la même histoire. En fait, la Corée y arrive, va réussir notamment en prenant aux Japonais. La même histoire que les 4x4 coréens par rapport aux Japonais. Aujourd'hui, pour un client américain, c'est à peu près la même chose, une coréenne et une japonaise. Pour un armateur mondial, aujourd'hui, du japonais ou du coréen, c'est la même chose. Voire c'est mieux parce que la Corée a su passer des seuils qualitatifs, notamment en termes de gigantisme, en termes de navires spécialisés, notamment ces grands porte-conteneurs, les méthaniers, des navires à haute valeur ajoutée, complexes. Et en plus, ils glissent aujourd'hui vers le pétrole, l'oil and gas, les plateformes, parce que c'est une nouvelle source de valeur ajoutée.
Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont en crise aujourd'hui ?
Parce que la nature étant difficile et dans cette espèce de principe darwinien qui est souvent l'économie globale, on a l'arrivée des Chinois. Et en fait, les Chinois ont fait la même méthode que les Coréens. Et les Coréens subissent aujourd'hui ce qu'ils ont fait subir aux Japonais. Les Chinois sont arrivés avec du bas de gamme, commencent à monter en gamme, avec des grands conglomérats publics cette fois-ci. Donc en plus, des pertes financières qui peuvent être absorbées par le régime central ou les régimes provinciaux, les gouvernements provinciaux, toute cette économie-là. Et aujourd'hui, la crise, elle est simple. Et ça peut arriver demain sur l'automobile, à partir du moment où les constructeurs chinois arrivent, la métaphore étant la même.
On va s'intéresser à la Chine dans un instant, mais encore un petit mot sur la Corée du Sud, parce qu'il y a aussi peut-être un autre phénomène dans cette crise sud-coréenne, c'est la force de la monnaie, le won, qui, en tout cas en face du yen, qui s'est plutôt, lui, déprécié, ça rend les bateaux nippons peut-être moins compétitifs que les bateaux sud-coréens.
Les taux de change...
Plus compétitifs, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, les bateaux nippons sont peut-être un peu plus compétitifs qu'hier, à cause justement de cette...
Tout à fait. La baisse monétaire, enfin la baisse du taux de change du yen, évidemment, favorise la construction japonaise, qui est en plus très qualitative. Donc les armateurs, pour des navires spécialisés, peuvent glisser vers les Japonais. Et d'un autre côté, les Coréens sont pénalisés par un won trop fort. Ça a toujours été un des paramètres de la construction navale coréenne. C'est le fait que le niveau de la monnaie avec le dollar et l'euro, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le coût salarial d'un Coréen est quasiment le même qu'un travailleur occidental. Donc aujourd'hui, la différenciation, elle n'est pas très forte. Les coûts aujourd'hui industriels, le prix de l'acier coréen est pratiquement le même que les autres. Donc il restait éventuellement de taux de change. Donc cette mise en concurrence, elle se fait aussi par l'élément monétaire.
Mais est-ce que cette question du taux de change, elle suffit à expliquer que la construction navale, justement en face du côté du Japon, sont en train de revenir ? Parce que pendant un temps, les observateurs nous disaient, voilà, en gros, le secteur de la construction au Japon, il va disparaître. Force est de constater que non seulement il n'a pas disparu, mais en plus, il est en train de reprendre de la vigueur.
Alors, les Japonais ont deux avantages. Ils ont évidemment la structure en conglomérat, les keiratsu, qui permettent éventuellement évidemment d'absorber.
C'est quoi les keiratsu ?
C'est, si je me souviens bien de mes cours de géographie, ce sont ces grands conglomérats privés qu'on retrouve dans ces pays-là. Donc 6 pour le Japon, à peu près 3 ou 4 pour la Corée, avec des structures multi-activités qui permettent éventuellement d'éponger les déficits de certaines structures. Mmh. Donc Kawasaki, il y a un chantier, il y a la marque de moto, il y a la marque automobile, mais il peut y avoir aussi plein de choses derrière, un chantier, des chantiers spécialisés, des filières de BTP, de sidérurgique ou des choses comme ça. Ce qui permet éventuellement d'absorber pour certains secteurs des crises de filières. Et les Japonais, en plus, on a eu de la fusion de certains groupes, comme donc une méthode de résistance. Et cet avantage, évidemment, du yen moins cher, qui permet... Vous êtes un armateur, vous voulez avoir un navire technologique comme un chimiquier ou quelque chose pour transporter des produits très spécifiques à haute technologie. Entre du Made in Korea, du Made in Japan, si vous avez un avantage monétaire, si vous avez des garanties, parce que en plus vous êtes dans des pays très sérieux de toute façon, il peut y avoir un choix. Et aujourd'hui, c'est paradoxal, mais la Corée est prise en étau entre une nouvelle concurrence japonaise, qui durera peut-être qu'un an ou deux, et la concurrence chinoise.
Alors justement, la concurrence chinoise, Paul Touré, quel avenir vous voyez à cette construction navale chinoise ? Est-ce qu'elle va tout emporter sur son passage ? Puisque vous nous disiez clairement, du côté de la Corée du Sud, on fait les frais de ce nouvel acteur. Ou est-ce que là aussi, il y a des limites ? Et si oui, lesquelles ?
Alors, je ne veux pas me fâcher avec 1,5 milliard de Chinois, mais on a évidemment un problème économique, c'est-à-dire ce fonctionnement à la fois capitaliste et d'une économie dirigée, la planification. Un élément qu'on ne prend pas toujours bien en compte, c'est tout ce qui est gouvernements locaux, comme je disais tout à l'heure, donc des dynamiques territoriales qui sont souvent fragmentées. La Chine, aujourd'hui, c'est deux conglomérats publics, dont j'aurais du mal à me souvenir des acronymes, mais en tout cas deux grands conglomérats qui rassemblent l'essentiel des chantiers, puisque quelques chantiers privés, quelques filiales de grands groupes maritimes, et tout ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On a eu un développement de ce qu'on appelait les greenfields, c'est-à-dire des chantiers qui n'existaient pas, qui prenaient des commandes, qui sortaient très, très vite, parce qu'on sait qu'en Chine, on peut faire très vite quelque chose en passant au-dessus de beaucoup de réglementations, y compris des réglementations chinoises. Donc un excès...
Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, en Chine, ces dernières années, ce qui se passait, c'est que on recevait des commandes pour la fabrication de navires, on expliquait qu'on allait mettre en place des chantiers navals, et finalement, ces chantiers navals ne voyaient jamais le jour, c'est ça?
En tout cas, on était pris dans un espèce de double perversion, une perversion qui était celle de la tentation spéculative de beaucoup d'armateurs qui commandaient des navires sur des promesses de marché, donc qui allaient engager des commandes, et une forme de spéculation navale dans la construction qui était en Chine, c'est-à-dire tel gouvernement de telle ville côtière qui promettait un chantier, qui engageait des commandes, dont certains n'ont pas vu le jour à cause de la crise, mais certains ont vu le jour. Donc la Chine s'est retrouvée dans une espèce d'hypertrophie navale qui aujourd'hui doit être apurée. Mmh. Et le gouvernement chinois a sorti une liste de 50 chantiers en disant aujourd'hui, il faut restructurer le secteur. Et ce qu'on voit là, je suis sûr que c'est la même chose pour l'automobile, pour le transport maritime, pour la banque, pour l'assurance. La Chine a une vraie problème d'hypertrophie de son économie mal maîtrisée, pouvoir central, pouvoir local, capitalisme, gouvernement, contrôle gouvernemental.
J'imagine que quand on est un client, qu'on a commandé un navire à la Chine et que finalement le chantier naval ne voit jamais le jour et que du coup on ne voit jamais le navire qu'on a commandé, ça ne doit pas instaurer un grand climat de confiance.
De toute façon, les clients de ces chantiers ne sont peut-être pas des gens forcément de grande confiance. Les grands armateurs se bornent quand même. Les grands acteurs maritimes internationaux savent à peu près faire leur métier. On a joué aussi d'une espèce d'excès de confiance où tout le monde a accepté des prix de plus en plus chers, une espèce d'euphorie comme on le retrouve souvent dans les périodes de crise. Et aujourd'hui, comme toute euphorie, il faut revenir sur terre, il faut apurer le système. Les Chinois le savent bien parce que quelque part, aujourd'hui, l'excès de concurrence à l'intérieur de la Chine fait aujourd'hui que la rentabilité des chantiers est très faible. On a parlé de chiffres, peut-être aujourd'hui, un tiers des chantiers n'ont pas de travail pendant 2 ans. Donc on est vraiment dans une...
On a encore... C'était pas seulement des clients chinois qu'ils avaient, justement.
C'était des clients internationaux. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a même une tentation de la Chine de se dire, quitte à avoir une infrastructure qui est surdimensionnée, autant servir le marché. Donc on parle de prime à la casse en Chine, on parle d'aide... Donc il faut bien faire tourner le système. Tout ça est hypertrophie, encore une fois, c'est le bon terme. Donc, il faut bien que le gouvernement chinois arrive à faire des choses, à la fois du point de vue de son transport maritime, comme de ses chantiers navals. Il y a un vrai problème en Chine qui est un problème chinois.
Paul Touret, l'Europe à présent, parce que bon, donc la construction navale, et vous l'avez un petit peu dit, c'est quand même une industrie de main-d'œuvre. En tout cas, on la voit comme une industrie fortement délocalisable, en particulier vers les pays en voie de développement. Si on regarde un peu l'actualité, une fois encore, l'actionnaire principal des chantiers navals, STX, qui est une banque coréenne, a officialisé son intention de vendre ses filiales européennes. Ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la construction navale en Europe et quel est son avenir? Est-ce qu'une fois encore, la mort du secteur est inévitable à l'échelle européenne?
Le secteur arrive d'une période très difficile, qui est la fin des années 70, années 80, dans laquelle, à un moment, il a fallu restructurer. L'Europe refusait les subventions à la construction navale, les principes communautaires. Donc 80% peut-être ou 70% de la construction navale est morte à cette époque-là en Europe. Il est resté quand même en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, un certain savoir-faire sur des niches de spécialité, des petits navires à valeur ajoutée ou spéciaux qu'on pouvait faire en Europe, et le secteur des carferies et des navires de croisière.
Qui faisait ça en Europe?
Alors essentiellement 2-3 chantiers allemands, plutôt 7-8 chantiers allemands. Évidemment, les chantiers de Saint-Nazaire, puisque c'est leur seul nom, toutes les noms de compagnies derrière sont que des histoires économiques qui succèdent, les chantiers de Saint-Nazaire, les chantiers qui sont contrôlés par l'État italien, qui s'appelle Fincantieri en Italie, puis quelques chantiers familiaux et un ancien chantier public pour l'Espagne, essentiellement, et des Finlandais aussi, qui étaient très présents.
La Roumanie aussi, je crois, non?
Alors, il y a cette histoire à part qu'évidemment, les Polonais et les Roumains qui sont rentrés dans le jeu avec l'intégration européenne. Ce qui est sûr, c'est que la crise de 2007-2008 a balayé, en tout cas de l'Europe de l'Ouest, les derniers navires de charge. parce qu'aujourd'hui, enfin, un petit porte-conteneur en Allemagne ou en Chine, vous avez bien compris que c'est plus simple en Chine. Il ne reste plus que les navires spécialisés, tout ce qui est autour de l'oil and gas, dans des activités offshore qui va plutôt se faire en Norvège, la croisière et les ferries. Et les ferries, c'est difficile parce qu'en général, chaque année, sur les 15 ou 16 ferries qui sont livrées, il y en a 2 ou 3 coréens. Alors évidemment, c'est du Made in Korea. Au départ, c'est pas top. Et puis, au fur et à mesure des années, ça devient du Made in Korea d'aujourd'hui, un peu plus qualitatif. Sur la croisière, nous espérons tous, et je touche du bois, évidemment, venant de Saint-Nazaire, évidemment, sur la pérennité de la construction navale de croisière, où là, on est vraiment dans du top.
D'abord, il y a eu de très bonnes nouvelles là, ces dernières semaines avec des gros contrats négociés pour, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois pour 10 milliards d'euros, quelque chose de gigantesque.
On arrive aujourd'hui sur les grands acteurs de la construction navale mondiale qui sont essentiellement américains et un petit peu européens, sur des commandes régulières, avec des périodes de crise qu'il ne faut pas oublier. Il y a le sourire, en tout cas, à Saint-Nazaire. Il y en a beaucoup chez Meyer Werft, qui est un grand chantier allemand qui possède aujourd'hui une entité en Finlande. Il y en a chez Fincantieri. Ça n'empêche pas les interrogations capitalistiques sur les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, c'est un secteur positif parce qu'on a une espérance qui commence à arriver. C'est la demande de croisière chinoise, cette fois-ci de croisiéristes. Donc, il fait un appel d'air bienvenu pour les chantiers. Donc, on espère qu'en tout cas, ces 4 ou 5 grands chantiers européens...
La Chine ne construit pas ses propres bateaux de croisière, pas encore.
Et nous espérons que pour une trentaine d'années, elle ne le fasse pas. Évidemment...
Vous êtes bien optimiste.
Non, en tout cas... c'est-à-dire, l'expérience, pour dire l'anecdote, c'est que Mitsubishi a récupéré la fabrication de 2 paquebots pour la filiale allemande de Carnival, qui s'appelle AIDA. Ça se passe très mal. Le contrat va sans doute se faire à perte. Ce qu'on veut dire par là, avec évidemment beaucoup d'optimistes européens, c'est que le savoir-faire de la construction navale de paquebots, c'est pas tant la coque que l'ensemble que représente un paquebot. Un paquebot, c'est un hôtel flottant. Donc, vous rajoutez un bateau, vous mettez un hôtel et en plus, vous mettez toutes les contraintes de faire. Il faut faire des piscines, de la climatisation, des cabines et tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas du prêt-à-porter, justement. C'est de la haute couture à centaines de millions d'euros. Et en général, les chantiers européens, à l'écoute d'une clientèle difficile, clientèle de la construction du paquebot, ce sont des gens qui ont des exigences parce que derrière, vous avez des clients qui sont très exigeants aussi. Alors, je ne parle pas de la croisière bas de gamme low cost, mais en tout cas, quand vous faites du luxe ou du premium, comme on dit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on espère un petit peu que ce secteur-là reste dans le champ européen.
Il n'y a pas que Saint-Nazaire, Paul Touré. Il y a aussi, par exemple, Dunkerque. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, La Voix du Nord a publié un article dans lequel il était question d'une remise en route du chantier naval de Dunkerque, les chantiers de France. Ça fait presque 30 ans, je le disais, que le dernier bateau est sorti des ateliers. Même le dernier paquebot, si on regarde le Pasteur, c'était juin 1966. Je suis allé regarder ça. L'activité va reprendre sur les chantiers de France de Dunkerque.
Toujours difficile
à dire.
Et
une fois encore, comment expliquer ce renouveau?
Alors, ce qu'il y a à Dunkerque, il faut voir, parce qu'il y a un réparateur naval qui a été repris par un gros groupe qui s'appelle Damen, les Néerlandais. Et on sait qu'aujourd'hui, ce groupe néerlandais qui est plutôt spécialisé dans des navires spécifiques et puis aussi dans la réparation, qui a récupéré aussi les chantiers de Brest de réparation, il peut y avoir aussi un savoir-faire à remettre en route.
Vous y croyez ?
Je suis obligé d'y croire parce que c'est dans le patrimoine maritime français.
Quelles sont les raisons qui vous poussent à y croire ?
Non, après, on sait que dans les navires spécialisés, la valeur ajoutée, aujourd'hui, c'est dans le champ européen. Et puis, il ne faut pas oublier que la construction navale, elle est basée sur des navires qui sont aujourd'hui en fin de course par rapport à l'exigence économique et écologique. Et donc, il y a un vrai défi pour la construction navale. En gros, on fait les navires comme on les faisait il y a 30 ans, sauf qu'ils ont évolué en taille, etc. Mais il y a un vrai défi environnemental et énergétique qu'il faudrait être relevé et l'Europe peut y répondre.
Vous nous rappelez un petit peu d'histoire quand même, Paul Touré, pourquoi les chantiers de France ont sombré, en quelques mots ?
Je rappelle, l'Europe a dit on arrête les financements à perte de la construction navale dans tous les pays. Le gouvernement Fabius avait restructuré tout ça puisqu'on avait eu la Normed associant les chantiers de la Méditerranée avec ceux de Dunkerque. Le 16 mars 1986, le gouvernement Chirac est élu, le gouvernement Chirac est mis en place et M. Madelin, ministre extrêmement libéral à l'époque, a coupé l'approvisionnement financier ou les subventions dès le mois de juin. Donc la construction navale française est morte en 86-87 très rapidement, à l'exception de la construction navale nazérienne qui a gardé pour différentes raisons ses atouts et parce qu'elle s'est positionnée à une époque sur un marché très spécifique qui était celui de la croisière qui apparaît que dans les années 90. Donc c'est une histoire industrielle qui survit un peu comme on a eu aujourd'hui. On prend la sidérurgie, Fos et Dunkerque sont des excellents chantiers européens et donc une continuité d'un processus industriel. Ce n'est plus la France sidérurgique des années 80, c'est plus la France navale des années 80. Quelques fleurons qu'on peut maintenir, dans des logiques internationales de grands groupes qui ont compris aussi que faire en Europe et en France, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
Vous nous rappelez quand même, Paul Touré, parce que je n'ai pas la moindre idée combien coûte un navire, un porte-conteneur, je sais pas, une petite fourchette.
Alors, on va partir d'un bateau très simple, bateau à passagers à camion qu'on peut trouver à Marseille quand ça va bien pour aller en Corse, c'est 50 millions d'euros. Un paquebot, c'est 1 milliard. Et on a des porte-conteneurs les plus chers, autour de 800, 600 millions d'euros. Donc ce sont des investissements
colossaux. Par exemple, Marco Polo dont on parlait tout à l'heure.
On doit être dans les 800. Alors il ne faudrait pas que je sois contredit tout de suite par Wikipédia en sortant de l'émission. Mais en tout cas, on est dans des volumes d'investissements qu'il ne faut pas oublier. C'est une industrie de service. Hein. Ça reste comme toutes les industries de service. Du transport, de la mobilité de marchandises.
Comment est-ce qu'on fait pour financer un tel objet, 600, 800 millions d'euros? À qui est-ce qu'il appartient à la fin? Est-ce que finalement c'est l'armateur qui va payer le porte-conteneur? Ou est-ce que c'est les banques qui sont derrière, finalement, qui vont garder la possession de tout ça? Enfin...
Alors... Les consortiums bancaires possèdent en général, souvent, on fait des emprunts spécialisés dans tous les pays. Il y a des banques pour ça. Les banques françaises étaient très bien positionnées, un peu moins, parce que maintenant... C'est vrai que c'est un marché difficile. Donc, en général, on trouve des investissements bancaires. Une partie de la flotte n'appartient pas aux grands opérateurs sur lesquels on voit les logos sur les conteneurs qu'on peut voir sur l'autoroute ou dans les ports. Une partie appartient à des sociétés spécialisées qui possèdent ces navires-là et qui les après les affrètent ou les frètent plutôt aux grandes compagnies maritimes. Donc, il y a tout un jeu économique derrière.
Des banques ?
Non, des compagnies maritimes spécialisées installées en Grèce, à Monaco, en Angleterre. Il y en a au Canada.
Mais qui n'est pas forcément l'armateur ?
Qui n'est pas l'armateur, ce qu'on appelle un owner, propriétaire en fait, qui est le beau terme, des propriétaires de flotte qui mettent à disposition. Donc en général, un deal entre la construction navale, le constructeur naval, ses propriétaires de navires et les armateurs.
Je vais vous poser une question bête, pourquoi est-ce que l'armateur ne se paye pas son bateau ?
Parce que quand c'est la politique du risque, on peut à peu près le comprendre, on mélange ses œufs, on fait un panier, on mélange en trois navires, les navires en propriété qu'on garde parce qu'on est sûr de les avoir, de l'affrètement court qui permet de gérer les périodes de haute et de basse eau, et puis d'affrètement plus long qui permet de gérer un peu plus le long terme.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine qui s'intéresse au transport maritime et aujourd'hui vie et mort d'un porte-conteneur, c'est notre sujet ce matin avec Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime de Saint-Nazaire qui est notre invité ce matin. On va retrouver un nouvel invité Paul Touré par téléphone, on va s'intéresser au courtage maritime, chose en tout cas pour moi personnellement et j'imagine pour un certain nombre d'auditeurs un petit peu obscur, on va essayer de comprendre tout ça. Bonjour Jean-Bernard Raoust.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien président de BRS, Barry Rogliano Salle. Alors, pour information, hein, quand même, c'est le premier courtier maritime français dans les 10 premiers courtiers maritimes mondiaux, dans un classement dominé par un Britannique, Clarkson. C'est une société qui possède quand même une longue histoire, hein, puisque j'ai vu, hein, Barry Rogliano et Salle, c'est des patronymes de courtiers dont certains, en l'occurrence Jules Barry, exerçaient déjà le courtage maritime du côté de Marseille dans les années 1850-1860. Donc on voit que l'histoire pèse derrière tout ça. Aujourd'hui, votre groupe est présent dans une douzaine de pays, compte près de 160 courtiers. Vous avez des bureaux à Londres, en Espagne, en Croatie, à Dubaï, en Chine. Vous avez, vous, Jean-Bernard Raoust, donc dirigé BRS. Vous avez quasiment 40 ans, je crois, de courtage maritime derrière vous. Ça consiste en quoi, le courtage maritime ? C'est quoi ? En gros, vous achetez des navires pour des armateurs, quoi ?
Non, le courtage maritime ne consiste pas à acheter, nous ne sommes pas des traders, nous sommes des intermédiaires. Et pour illustrer ce que nous faisons auprès de vos auditeurs, je dirais que nous sommes un petit peu comme l'agent immobilier. Nos clients qui sont les armateurs, qui sont les affréteurs, qui sont les chantiers, ont besoin à un moment donné de faire une affaire, soit en achetant son bateau, soit en vendant leur bateau, soit en le remplissant avec la cargaison, soit en remplissant aussi les carnets de commandes des chantiers. Et nous contribuons à mettre les deux parties qui ont des besoins donc complémentaires ensemble pour traiter cette affaire.
Alors je vais vous poser une question bête, hein, Jean-Bernard Raoust. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous finalement ? Pourquoi est-ce que les deux parties ne peuvent pas faire affaire sans vous ?
Écoutez, quand vous voyez qu'il y a à peu près 50 000 bateaux et que donc il y a un besoin de connaître et de suivre tout ce que font ces bateaux, quand vous voyez que la sidérurgie chinoise importe 800 millions de tonnes de minerais et autant de 300 millions de tonnes de charbon, tout ça, c'est des chiffres colossaux. Et les principaux, les clients, qu'ils soient des compagnies de navigation ou la sidérurgie, ont besoin d'avoir des spécialistes qui suivent le marché heure par heure et qui peuvent à tout instant leur faire bénéficier de la meilleure opportunité. Et toutes nos équipes sont très spécialisées dans l'ensemble des domaines du maritime et ces équipes-là, à tout moment, vont donner au client qui en a besoin l'information qui va lui permettre de faire son jugement et de prendre des décisions d'investissement ou d'affrètement qui correspondent le mieux à leurs besoins.
Donc vous vendez finalement de l'information, votre expertise dans ce secteur-là. C'est qui aujourd'hui vos principaux clients ? Est-ce que l'essentiel de votre activité, c'est du côté de la Chine, Jean-Bernard Raoust ?
Alors, nos clients sont d'une part les armateurs, et là il ne s'agit pas de la Chine, il s'agit du monde entier, mais bien évidemment avec quand même beaucoup de clients occidentaux, européens, et puis ça c'est la partie armatoriale, et puis les clients français aussi, car il y a encore, Dieu merci, quelques armateurs français de talent, et puis côté cargaison, je dirais que nous sommes des très proche de la sidérurgie chinoise, et nous sommes effectivement aujourd'hui l'un des principaux courtiers de la sidérurgie chinoise. Mais il n'y a pas que la sidérurgie chinoise, il y a également toutes sortes de cargaisons à transporter sur lesquelles nous intervenons.
Je vous entends dire que les armateurs français sont de talent, et vous avez raison de le dire, notamment CMA-CGM, premier armateur français, troisième niveau mondial, mais quand même, vous dites-vous que le marché français, il est un peu décevant. Je reprends votre mot, décevant, que parfois, même si vous avez de bonnes relations, et vous l'avez rappelé là une fois encore à ce micro, c'est souvent, vous avez au fond des relations, c'est vous qui le dites, plus proches avec certains armateurs, affréteurs étrangers. Comment vous l'expliquez ?
Oh, vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il est vrai qu'on aimerait de temps en temps qu'il y ait un peu plus de solidarité entre les armateurs français, les prestataires de services français. Mais bon, les armateurs, les affréteurs aiment bien aussi écouter nos amis étrangers. Et vice-versa, les armateurs étrangers, la sidérurgie chinoise, etc., aiment bien aussi écouter des courtiers français qui peut-être voient le métier un petit peu différemment, sont organisés différemment et ont une touche peut-être différente des anglo-saxons. Voilà, donc pas de jalousie, mais bon, c'est vrai que de temps en temps, dans un marché difficile, quand on est en crise, on aimerait qu'il y ait un peu plus de solidarité.
Non, mais vous vous sentez plus proche finalement de la culture anglo-saxonne de ce point de vue-là. J'imagine que c'est pas un hasard si celui qui vous a succédé à la tête de BRS est un Britannique, je ne me trompe pas.
Absolument. Voilà. Non, ce n'est pas un hasard. C'est lié, effectivement. Bon, d'abord, c'est le talent de l'homme qui m'a succédé.
Évidemment.
Qui a fait ses preuves dans la société. Mais c'est également aussi le signe d'une évolution de notre groupe qui, effectivement, a été très hexagonal et franco-français, je dirais, depuis la guerre jusque dans les années 70. Et puis, 1970, bien sûr. Et qui, aujourd'hui, s'est complètement ouvert au monde et s'est développé de façon internationale.
Je vais la parole dans un instant à Paul Touret, mais vous parliez d'évolution. Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans votre activité ? J'ai dit, quasiment 40 ans, 4 décennies dans le courtage maritime. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans l'évolution de ce secteur-là ?
Bah écoutez, d'abord, si je prends la France, malheureusement, nous avons perdu beaucoup d'armateurs. La France s'est retrécie sur le plan maritime, à l'exception de CMA, CGM et de Bourbon. J'ai vu, moi, disparaître en à peu près 40 à 45 armateurs au cours de ma carrière. La France est peu attirée, les Français sont peu attirés par le monde maritime. Et la France était très forte sur les mers, elle était très forte lorsqu'elle avait une puissance coloniale. La fin des colonies a un peu marqué la fin de la puissance maritime française. Et aujourd'hui, je veux dire que malheureusement, nous n'avons pas un armement à la hauteur du rang économique que nous représentons dans le monde.
Le courtage maritime, Paul Touret, évidemment, c'est quelque chose de central dans cette transport maritime dont on parle toute cette semaine.
Comme ça a été expliqué, c'est le principe même d'une externalisation. Aujourd'hui, les armateurs entre eux ont besoin, parce que ceux qui ont besoin de navires doivent bien rencontrer une offre, donc le courtier est intermédiaire. Et puis on l'a dit, aujourd'hui, notamment dans la sidérurgie, dans l'énergie, avec le charbon, dans beaucoup de secteurs, il faut faire appel à un transport maritime. Et le courtier est le meilleur connaisseur, effectivement. On gagne des millions d'euros à en dépenser un petit peu pour les courtiers. Donc c'est un métier tout à fait intéressant, notamment pour des acteurs intermédiaires qui sont mal positionnés.
Jean-Bernard Raoust, dans votre secteur, il y a aussi un autre acteur qui, j'imagine, est absolument central, c'est la banque. Il faut évidemment importer de l'argent, beaucoup d'argent pour acquérir de nouveaux navires et les armateurs n'ont peut-être pas toujours, surtout qu'on a compris que ce n'étaient pas toujours les mêmes qui au fond géraient le transport et ceux qui possédaient les bateaux, mais en tout cas les banques elles aussi interviennent dans ce secteur-là. Quelle place elles ont ? Est-ce que au fond cette présence du secteur bancaire peut constituer éventuellement une menace ? Jean-Bernard Raoust.
Écoutez, non, pas pour nous. Nous faisons chacun un métier différent. Et nous ne finançons pas l'industrie maritime. Les banquiers le font. Mais je veux dire qu'il y a eu une évolution là aussi. Puisque avant 2008, on pouvait facilement financer un navire à hauteur de 80% auprès des banques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais que les banques souhaitent que les fonds propres soient beaucoup plus importants. Et donc, les armateurs, aujourd'hui, ont souvent des difficultés à réunir les fonds propres nécessaires au financement d'un bateau. Alors, apparaissent de nouveaux marchés financiers qui n'existaient pas dans le shipping autrefois, c'est-à-dire les émissions obligataires, et on voit ça en bourse d'Oslo, en bourse de New York, les introductions en bourse, et puis les fonds d'investissement qui viennent investir dans le shipping. Et ça, c'est une évolution très nouvelle.
Les fonds d'investissement dans le shipping, Paul Touret ?
C'est peut-être pas une bonne idée pour ceux qui investissent dans le shipping. Il faut du cash, effectivement. Les introductions en bourse et fonds d'investissement. Le transport maritime est une activité difficile qui mobilise des millions d'euros, de dollars, dont la rentabilité est chaotique. La certitude, si les Américains et les Britanniques n'ont plus de compagnie maritime, c'est parce qu'on ne peut pas garantir à des investisseurs un rendement à 15 ou 17%. Donc, c'est une stratégie notamment des armements grecs de s'introduire en bourse. Il y a effectivement un certain nombre d'acteurs à Athènes comme à Oslo. Aujourd'hui, ça peut être, il ne faut pas le répéter évidemment, ça peut être un piège économique pour des investisseurs. À partir du moment où on met des business plans, des modèles économiques intéressants, chacun est libre de mettre son argent. Aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que le transport maritime a besoin de cash. Et on est assez déçus par cette attitude de la banque. Un armateur le disait hier dans un cercle, qui ont tendance à venir quand tout va bien et à partir quand tout va mal. Le transport maritime aurait plutôt besoin de l'inverse.
Jean-Bernard Raoust, c'est quoi la durée de vie d'un navire ?
Ça dépend. Je vais faire une réponse à la femme Renault. Non, ça dépend un petit peu de ce qu'il transporte, parce qu'il y a des bateaux qui s'usent plus vite que d'autres. Je dirais que si vous prenez le transport de produits pétroliers, au-delà de 15 ans, peu d'affréteurs de qualité affréteront des navires de plus de 15 ans.
Ah bah dis donc, ça fait très très court, 15 ans quand même. Jean-Bernard Raoust, vous êtes du même avis, Paul Touret, 15 ans ?
On voit effectivement un taux de renouvellement et on a des navires aujourd'hui qui peuvent être encore... De toute façon, il faut en éliminer. Donc on n'hésite plus à éliminer des navires adolescents. Ou avant,
Si le cycle de vie d'un navire, c'est 15 ans, ça demande vraiment un renouvellement extrêmement intense.
Ah, évidemment, comme ça vient d'être expliqué...
Jean-Bernard Raoust, lui, il les vend, donc j'imagine qu'il va plutôt voir à la baisse la durée de vie des navires.
Après, tout dépend on a des navires qui traînent beaucoup trop longtemps, on a eu des transporteurs de véhicules, mais derrière, il y a des histoires industrielles aussi, des histoires de renouvellement de flotte ou pas, chaque secteur a un petit peu son propre phénomène. C'est sûr qu'aujourd'hui, vu qu'il y a trop de navires, on éliminera tout ce qui ne sert à rien.
Dites-moi, Paul Touret, quand le navire, justement... Je vous redonne la parole, mais quand le navire, Paul Touret, est arrivé à la fin de sa vie, il est racheté par un armateur, souvent, en tout cas par un acteur qui va ensuite le revendre pour qu'il soit démantelé. Comment ça se passe ?
Disons qu'il y a une fin de vie commerciale qu'il faut qu'on trouve. Et puis, il y a la fin de vie du navire. Évidemment, il y a un espace de temps entre la fin de vie commerciale jusqu'à sa démolition et qui est un temps qui est dans une zone grise de l'économie mondiale, disons-nous.
Vous intervenez, vous, dans ce temps-là, Jean-Bernard Raoust ?
Oui, oui, nous intervenons à tous les stades du temps. Simplement, ce que je voulais dire là, sur l'âge, je vous ai dit, navire citerne, 15 ans pour des raisons de qualité et de sécurité. Mais enfin, ce n'est pas vrai pour les braquiers qui vont jusqu'à 27 à 30 ans ou pour d'autres types de navires. Ah, encore moins pour des ferries ou pour des transports des navires passagers.
Je vous relance sur la fin de vie, Jean-Bernard Raoult, sur la fin de vie des navires.
Alors, nous intervenons aussi sur la fin de vie des navires.
Comment? Vous rachetez des navires et vous les revendez ensuite pour qu'ils soient démantelés?
Nous ne rachetons pas, mais il nous arrive que nos clients nous demandent de vendre à la démolition leur navire.
On va parler.
Alors, ça ne nous arrive pas très souvent pour une simple raison, c'est que nous travaillons avec des grands armements de qualité et que ces armements de qualité, en général, ont vendu leur navire d'occasion avant qu'il atteigne l'âge de la démolition. Donc, nous ne sommes pas très, très actifs sur le marché de la démolition.
On va parler justement de la démolition à présent.
C'est un très beau bateau, je suis ravi. Notre industrie va largement en bénéficier. L'acier va pouvoir être fondu dans nos usines et ensuite réutilisé. Et puis les ouvriers au chômage vont retrouver des emplois. Allez, tous au boulot! Vous me ramenez les cordes, attachez-les fermement aux plaques. Allez, vite, vite!
Voilà, la démolition, on va s'y intéresser à présent. On va aller tout de suite du côté du Bangladesh, à Chittagong, exactement, sur la côte nord-est du golfe du Bengale. C'est un des trois principaux sites de démantèlement de navires au monde, avec celui d'Alang en Inde et d'Aliaga en Turquie. Entre 180 et 200 gros navires de toutes sortes, tankers, porte-conteneurs, vraquiers, ils sont démantelés chaque année. C'est-à-dire, en gros, une arrivée tous les deux jours. La technique utilisée pour arriver sur ces longues plages de sable est celle du beaching, une sorte d'échouage au gré des vagues montantes. On lâche le bateau à plus d'un kilomètre du rivage et puis la marée en gros se charge du reste. Et ce sont ensuite les travailleurs de Chittagong en l'occurrence qui entreprennent de désosser ce navire. Un travail pénible avec des moyens du bord, sans secours en cas d'accident pour des ouvriers recrutés de manière un peu spéciale. Vous allez le voir, c'est ce que nous explique le représentant d'une ONG baptisée Plateforme pour le démantèlement, Mohamed Ali Sahin, joint au téléphone hier soir par Xavier Martin. À écouter.
These shipbreaking yard owners, they have their agents in those villages.
Les propriétaires des chantiers de démolition navale envoient des agents dans les villages. Et ces agents invitent les habitants, qui sont pauvres, à venir travailler sur les chantiers de démolition navale. Ils leur versent une avance, très modique, et disent aux familles, « Vous voyez, il part avec nous, vous gardez l'argent, et lorsqu'il aura bien travaillé, il vous enverra plus d'argent. » Mais une fois que les ouvriers arrivent sur les chantiers de démolition, ils se rendent bien compte que c'est un travail dangereux, mais ils ne peuvent pas renoncer, parce qu'ils ont été payés d'avance. Voilà comment ils se retrouvent coincés sur les chantiers. Ils ne peuvent pas abandonner leur poste, et ils n'ont aucun autre choix, ni personne, qui puisse leur garantir un autre travail correct. La sécurité est totalement inexistante. Les navires sont découpés comme ça. Il n'y a aucun ingénieur en chef, ni aucun ingénieur tout court d'ailleurs, qui sache expliquer comment démanteler un navire. La construction navale, c'est un travail complexe. Mais la démolition, c'est également complexe et c'est très dangereux si vous ne savez pas comment faire. Or, les ouvriers sur place ne sont pas formés. Ils ne prennent aucune précaution. Ils apprennent simplement sur le tas, et les services responsables des chantiers ne fournissent aucun type d'équipement de protection, aucun dispositif de sécurité, ni aucun dispositif de formation des ouvriers. Et c'est comme ça que les accidents se produisent, quasiment tous les jours. Chaque jour, les ouvriers se blessent, voire meurent dans des explosions et d'autres accidents mortels.
Oui, on voit en effet un certain nombre d'articles qui évoquent ces explosions lors de la démolition des navires à Chittagong depuis des années. La dernière, c'était en avril dernier. Et justement, comment se fait-il qu'à chaque fois, comme dans ce cas, les propriétaires des chantiers affirment que les équipements de protection ont bien été fournis? Il n'y en a donc pas?
Tous les ans, de nombreux ouvriers meurent ou se blessent gravement dans des accidents. Et malgré ça, les propriétaires ne prennent aucune mesure pour assurer la sécurité des travailleurs. Si vous vous rendez sur un chantier, vous pourrez voir les ouvriers travailler pieds nus. Ils n'ont pas de chaussures, pas de tenue de travail, pas de casque, pas de lunettes de protection, pas de masque pour se protéger des émanations toxiques, qu'ils respirent près de 12 à 16 heures par jour. Et ils travaillent sans aucun EPI, ce qui les met encore plus en danger. Donc on a d'une part le problème de l'absence de plans et de techniciens pour les aider, et d'autre part, l'absence d'équipement de protection pour travailler dans des conditions de sécurité.
Et malheureusement, l'année dernière, ce sont 23 personnes qui sont mortes en travaillant sur les chantiers de Chittagong. Alors, est-ce que vous avez une idée du bilan humain à la fin de cette année 2014?
Plus de 1000 ouvriers ont été gravement blessés en 2014, et 14 personnes sont mortes cette année. Attention, ça c'est selon les informations dont nous disposons. parce qu'il est impossible d'être certain de disposer de toutes les informations. Les ouvriers ont parfois des accidents la nuit. Et là, les propriétaires ou les gérants des chantiers s'empressent de rapatrier les corps dans les villages avant que les médias ou des gens comme nous ne l'apprennent. Parfois aussi, ils jettent les cadavres à la mer.
Donc ici, vous nous dites que les propriétaires des chantiers tentent de masquer les accidents de chantier et même les corps des travailleurs tués.
Tout à fait. C'est ce qu'ils essaient de faire. Nous leur avons déjà dit, veillez à la sécurité. Pas besoin de cacher les cadavres, pas besoin de taire les accidents. En fait, ils sont très préoccupés de leur image, très préoccupés de leur réputation. Mais ils se moquent éperdument de la sécurité des travailleurs et de la vie de ces pauvres.
Alors, il existe deux conventions pour encadrer le démantèlement des navires. On se réfère à la convention de Bâle, on se réfère aussi à celle de Hong Kong qui a été signée en 2009. Elle comprend des mesures de précaution et des mesures techniques obligatoires, sont par exemple des grues ou des chemins de secours. Alors, est-ce que vous avez remarqué un changement depuis ces conventions à Chittagong ?
Franchement, ces deux conventions n'ont aucun effet. Ni les conventions, ni les normes internationales ne sont respectées. Les activités de démolition navale se déroulent exactement comme avant. Les ouvriers continuent à n'avoir accès à aucun service médical et le démantèlement des navires se fait au bord de l'eau, dans la région côtière de Chittagong. Et tous les produits huileux, tous les déchets toxiques liquides sont déversés dans l'océan, ce qui provoque la fuite des espèces marines. Par conséquent, les pêcheurs n'attrapent plus aucun poisson et la pollution de la nature est quotidienne. Et non seulement les ouvriers qui travaillent 12 à 14 heures par jour respirent ces émanations toxiques, mais les villages, les communautés qui vivent autour des chantiers de démolition, souffrent aussi de la pollution. Bref, les conventions et les réglementations internationales n'ont aucun impact et ne sont absolument pas respectées sur place par les gérants des chantiers. Sans oublier qu'ils brûlent les déchets dangereux pour s'en débarrasser, et lorsque les déchets brûlent, ils dégagent une épaisse fumée noire bien polluante. Les ouvriers qui travaillent sur place sont aussi exposés à des déchets dangereux, tels que l'amiante, ce qui signifie à terme qu'ils souffriront sans doute de cancer du poumon.
En avril de cette année, justement, après l'explosion qui avait tué 4 travailleurs, votre association Shipbreaking Platform demandait à l'industrie navale de prendre des mesures. Alors vous croyez vraiment que vous pouvez obtenir quelque chose des propriétaires et même des constructeurs de bateaux? Et qu'est-ce que vous pouvez attendre?
Bien sûr, nous attendons de la part des armateurs, qui sont généralement des armateurs européens, qu'ils garantissent le démantèlement de leurs navires dans le respect de l'environnement. C'est pour cela que nous leur demandons, que nous attendons d'eux, qu'ils jouent un rôle actif dans le nettoyage de leurs navires et qu'ils s'assurent que le démantèlement se fera loin de la plage. Parce que la plage, la côte, n'est pas un endroit où l'on peut réaliser une activité sale, comme la démolition navale. Si on peut construire et réparer des navires sur un chantier naval proprement dit, pourquoi ne pourrait-on pas aussi les y démanteler? Pourquoi les navires doivent-ils être démolis au bord de l'eau?
Et vous demandez donc aux armateurs, et particulièrement, on comprend, aux armateurs européens, de prendre leurs responsabilités concernant la démolition de navires. Mais quand on les interroge, ils disent souvent qu'ils ont revendu le navire à un autre intermédiaire qui ne leur a pas précisé la destination du bateau, que ce soit l'exploitation, la revente ou la pure destruction. Alors, qui est-ce qui est en fin de compte le propriétaire du bateau quand il touche le rivage du Bangladesh?
Yes, I understand.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, si les compagnies maritimes disent ce genre de choses, qu'elles ne sont pas responsables de la protection de l'environnement et des vies humaines sur les chantiers de la démolition navale, elles sont entièrement dans leur tort. Parce que selon la Convention de Bâle notamment, selon le droit international, le propriétaire du navire doit en assurer le démantèlement dans le respect de l'environnement. Quant aux navires, ils sont rachetés par des hommes d'affaires qui les démantèlent pour gagner de l'argent en revendant les morceaux de fer. Et ces propriétaires de chantiers de démolition navale qui achètent les navires fonctionnent comme une mafia. Ils ne prennent aucune mesure pour respecter le cahier des charges des armateurs, ni pour respecter la réglementation en vigueur.
Shahin Mohamed Ali, coordinateur donc de cette ONG Shipbreaking Platform au Bangladesh, au micro de Xavier Martinet. Réaction Jean-Bernard Raoust, rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps à la fin de cette émission, mais quand même, vous entendez quand on nous dit en gros, voilà, l'armateur doit garantir les conditions du démantèlement, et là pour le coup, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, lorsque le navire arrive pour être démantelé, il n'appartient même plus à cet armateur. Jean-Bernard Raoust.
Oui, non, ce qui est dit est vrai, mais il y a malheureusement dans certains chantiers, notamment au Bangladesh, des conditions de travail absolument épouvantables. Maintenant, il existe une certification qui s'appelle le Green Certificate pour les chantiers de démolition, et lorsque nous faisons une transaction à la démolition, mais encore une fois, nous en faisons peu, nous exigeons que les chantiers, que le navire soit démoli dans un chantier possédant cette certification. Alors, là où je reviens aussi sur le point qui a été dit, c'est que très souvent, les armateurs européens se sont vendus vendu leurs bateaux bien avant qu'ils soient démolis. Et donc la démolition est quelque chose qui les affecte pas directement, préférant vendre leurs bateaux. Et après, une fois que le bateau est vendu, bien sûr, ils ne savent pas très bien où le bateau va aller. Mais bon, admettons qu'il y a un peu d'hypocrisie. Mais il y a quand même beaucoup de progrès qui sont faits sous l'influence des ONG, l'influence des armateurs aussi, oui, qui sont quand même des gens responsables. Donc, nous espérons que petit à petit, nous arriverons à avoir un métier de la démolition beaucoup plus sain et beaucoup plus sûr, et des conditions de travail acceptables.
Paul Touret, quand même, le progrès, c'est quand même très très lent hein, dans ce domaine-là. Le démantèlement, ça reste quand même un secteur où il y a beaucoup d'abus.
Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une zone grise de l'économie globale. Et on est dans un phénomène de déresponsabilisation, mais on sait qu'on a des armements européens qui se responsabilisent de plus en plus. Un petit peu de réglementation européenne devrait les aider à faire la chose. Et puis, il ne faut pas oublier ce secteur post-modernisé. Les Chinois veulent y aller, mais ils vont y aller avec des éléments plus respectueux, en tout cas, une véritable structuration industrielle qui va poser la question. En fait, c'est que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh occupent une niche écologique aujourd'hui qui est la démolition mal faite et préjudiciable pour beaucoup de choses environnementalement et humainement, qu'il faudra que ça s'améliore. Alors, est-ce que demain, ça se fera en Inde? Ça veut dire des coûts d'investissement, etc. Donc, c'est une histoire économique à suivre, en tout cas, qui est un des éléments, sous-éléments du transport maritime mondial et global, mais qui mérite sans doute d'être suivi pour différentes raisons.
Une affaire qu'on suivra, bien sûr. Merci Paul Touret de nous avoir accompagnés ce matin. Et je rappelle, donc directeur de l'ICEMAR, qui publie chaque année un atlas mondial sur les enjeux maritimes. Celui de 2015 vient de paraître. Un grand merci de nous avoir accompagnés. Et puis également merci à Jean-Bernard Raoust qui est avec nous en direct par téléphone.